Il y a quelques mois, les premiers patients atteints du coronavirus sont identifiés en France. Rapidement, l'épidémie se propage, le pays se confine et tourne au ralenti, le monde du travail est profondément chamboulé. Plus de 12 millions de personnes se retrouvent au chômage partiel, des petits commerces en difficulté économique sont contraints de fermer. Entre-temps, les regards se tournent tous les soirs à 20h sur ces Français, souvent oubliés, qui continuent à travailler malgré tout. Qu'en est-il aujourd'hui ? La société redécouvre l'importance du métier d'éboueur, de caissière, de soignant. Pour certains, la crise constitue un tournant pour changer de vie. Pour d'autres, elle révèle les failles du système. Dans le Grand Est, l'une des régions les plus touchées par le Covid-19, les hôpitaux sont saturés. Infirmières, internes, formateurs doivent contenir l'épidémie. Après 2 mois intenses et usants, tous ont le même sentiment. À l'avenir, il faudra travailler différemment.
Je souhaite à personne de vivre ce qu'on a vécu. Quand on dit que c'était vraiment la guerre, c'est la guerre.
L'hôpital est à l'agonie, on n'a pas assez de moyens, on n'y arrive plus, on souffre.
On faisait des cauchemars, on n'arrivait pas à dormir, pas à manger.
CDI, Covid à durée indéterminée, travailler dans le monde d'après. Épisode 1, penser les blessures.
Hélène, va.
Depuis la crise, on est plusieurs dans le service à envisager très clairement de partir et à attendre ce que va nous proposer le gouvernement. Mais on est nombreux à dire que si ça ne devait pas nous convenir, on quitterait l'hôpital.
Bonjour, je suis Elisabeth, infirmière en soins intensifs de cardiologie à Strasbourg. Et je travaille depuis 6 ans comme infirmière à Strasbourg.
Le visage fermé, Elisabeth nous accueille au Cercle d'Aviron de Strasbourg. Elle y travaille comme concierge en plus de son métier d'infirmière. Dépassée par les conditions de travail, elle revient sur ses 2 mois passés à l'hôpital, au contact des patients les plus touchés.
Ça a été très difficile, on a été pris de court complètement. On a été du jour au lendemain transformé en service de réanimation pour accueillir des patients Covid. On a trouvé beaucoup de soutien entre nous, mais on ne s'est pas particulièrement senti soutenu par notre direction. On s'est trouvé très démunis par rapport à ce qui nous arrivait. Et c'est encore difficile aujourd'hui, on commence à en parler. Mais on est d'accord pour dire qu'on a vécu l'enfer. On se sentait pas en sécurité dans la prise en charge des patients. On avait l'impression qu'on ne savait pas ce qu'on faisait. On avait peur de les tuer tous les jours, par manque de connaissances, par manque de formation. On se retrouvait dans le vestiaire et puis pour se dire comment ça va. On se répondait ça ira mieux dans 8 heures. Et puis c'était pas vrai en fait, ça allait pas mieux dans 8 heures parce que 8 heures après on n'était plus au travail, mais notre esprit était quand même pris par le travail et puis c'était difficile.
Malgré toutes ces années d'expérience, Elisabeth s'est sentie démunie, obligée d'improviser.
Les respirateurs, on a appris, si vous voulez, dans la chambre, près du patient intubé, quand on avait la chance qu'il y ait quelqu'un de disponible pour nous montrer quels étaient les différents modes, quels étaient les boutons auxquels on pouvait toucher, qu'est-ce qu'on pouvait faire ou non. Mais ça a été très, très, très limité. Tous les jours, c'était la question de savoir ce qui se passait à l'hôpital. J'en faisais des cauchemars, je mangeais plus, j'ai perdu pas mal de poids. Ça a été vraiment difficile pour mon conjoint aussi, parce que je crois qu'on oublie aussi les familles qui étaient là avec nous et qui ont vécu ça et qui ont pris ça de plein fouet avec nous aussi. Je suis un petit peu dans l'attente de voir ce que nous propose le gouvernement, mais très clairement, si c'est pas satisfaisant pour moi, je quitterai l'hôpital. On a la chance pour l'instant d'avoir l'opinion publique de notre côté et ça nous a fait du bien d'avoir ces applaudissements, d'avoir ce soutien. Mais oui, moi j'ai peur que tout le monde reprenne son quotidien et qu'on oublie et que les choses redeviennent comme elles étaient.
Comme Elisabeth, ils sont nombreux à se questionner sur leur avenir.
Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, notre train TER de centre en gare de Mulhouse.
Au groupe hospitalier de Mulhouse, le médecin réanimateur Joy Moussien fait le même constat.
Je pense que les gens ont travaillé parce que c'était normal de faire ce travail-là. Maintenant, il revient peut-être ce moment d'interrogation de leur part. Ils se disent, mais est-ce que je vais continuer à faire ce métier? Est-ce que je vais aller faire autre chose? Il y a plein de questions comme ça qu'ils se posent. Mais je pense que chacun fera son analyse et prendra la décision qui pourra lui convenir. Je pense aussi qu'il faut peut-être vivre différemment. Il y a, des pratiques aussi adoptées, comme le port du masque. Même pour un médecin, quand vous allez examiner quelqu'un qui fait un problème respiratoire, faut se poser la question en disant est-ce que je ne dois pas porter un masque.
Écoutez, nous, on n'a pas eu de date non plus. C'est aussi début avril. Attendez, je repasse l'interne. Hein.
Et sinon, il y a un... Allô ? Oui, bonjour. Écoutez, le monsieur était parti en réanimation à Nîmes.
Ça a été très 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 dur sur le plan moral et physique. Ça nous a demandé beaucoup beaucoup d'énergie. Donc non, on n'est pas préparé, personne n'a jamais vécu ça. Quoi.
Maxime Dubois est interne depuis 2015. Pendant la crise, il finissait son stage de 6 mois en médecine interne. Il profite de sa pause déjeuner pour souffler un peu.
Quand on avait le temps d'être auprès des patients, après c'est sûr, on appelle les familles. Ils ne pouvaient pas venir voir leurs proches. Ça, c'était vraiment extrêmement dur aussi pour nous parce que c'est des conditions inhumaines. Quoi. Ça nous faisait mal, ça faisait beaucoup de mal aux familles, à l'équipe. Et puis après, chacun a un peu craqué régulièrement pendant la crise. Quoi. Quand on dit que c'était vraiment la guerre, c'est la guerre. Quoi. Ça a été la guerre. Quoi. Je suis content que le virus n'ait pas touché autant d'autres régions parce que je souhaite à personne de vivre ce qu'on a vécu, franchement.
À 10h ce matin, les dénivers sont négatifs.
Des dimers négatifs.
Super, donc on a exclu le T.
Okay. Les internes, ils font en moyenne 58 heures par semaine. Et donc 58 heures par semaine, et vous êtes payé quand vous débutez l'internat. Moi, je me rappelle, j'étais même pas à 1 500 €, quoi, un bac plus 7. Là, je termine bientôt, mais j'ai du mal, même avec les gardes, à dépasser les 2 000 €, quoi, en travaillant largement plus de 58 heures par semaine. Franchement, j'ai pas fait médecine pour l'argent, pas du tout. Hein. Franchement, j'aurais fait autre chose qui aurait été beaucoup plus rapide comme étude. Et je me serais moins embêté, hein, parce que, mais il faut voir qu'on a des conditions de travail, on travaille les week-ends, la nuit, toute la semaine, avec des horaires interminables. Donc on aimerait bien être payé à la hauteur de ce qu'on fait. Quoi. Voilà.
34.
Ouais.
Du coup, elle va mieux, on peut la faire sortir. Hein.
Oui, le pansement de Pitlane, il a été refait, tu sais ou pas ?
Ouais, on a refait le pansement d'Escar aussi.
Les décisions sont vraiment trop prises par des bureaucrates, des technocrates qui, en fait, ne savent même pas comment se déroule une journée dans un service, quoi, avec un médecin ou une infirmière. Ils ne savent même pas ce que c'est des soins, ils ne savent pas ce que c'est d'être auprès des malades, d'avoir les familles au téléphone. Voilà, ils sont en dehors de ces réalités, donc il faudrait peut-être qu'ils écoutent plus un peu les chefs de service qui, eux, savent comment ça se passe. Et il y a trop de décisions qui sont prises unilatéralement. On trouve beaucoup. Quoi. Moi, la direction, si vous voulez, là, depuis le début, je ne les ai pas vus une seule fois. Quoi. Ils ne sont pas venus dans le service, ils ne sont pas venus nous soutenir. Et on attend toujours. Donc, c'est sûr, ils sont dans leur bureau, mais ils ne sont pas venus voir ce que c'était les journées infernales qu'on a vécues.
Ces journées infernales, Maxime et l'ensemble du personnel peuvent depuis peu en parler. Une fiche de retour d'expérience a été mise en place par la direction. Une manière de capitaliser sur les expériences de chacun pour trouver de meilleures méthodes de travail.
Corinne Krenker, je suis la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse, Sud-Alsace. Je crois que le temps de chacun pour soi à l'intérieur de l'hôpital a montré ses limites. Plus de coopération, plus de fluidité dans les parcours de prise en charge, c'est ce que ça nous a montré. On l'a fait, donc ça marche. Il nous manque des soignants dans les établissements, que ça pose la question de l'attractivité. Et donc, quand on pose la question de l'attractivité, ça pose la question des carrières professionnelles, du niveau d'entrée, du niveau de rémunération, des conditions de travail. Oui, ça met en évidence toutes ces choses-là.
On va vous mettre sur un fauteuil, madame. D'accord ?
Ouais. Tu peux me dire quel box c'est libre ? 1, 2.
À Mulhouse, comme ailleurs, pour gérer le flux de patients, il a fallu créer des lits de réanimation. De 20 lits en temps normal, tous occupés début mars, l'hôpital de Mulhouse est passé à 90 grâce à la réorganisation de ses services. Le GHR a aussi pu compter sur l'hôpital de campagne militaire installé sur le parking central en face des urgences dirigées par le docteur Marc Noiset.
On a réussi à prouver qu'on était capable. Quelques mois avant, vous savez, les soignants étaient dans la rue, hein. L'hôpital est à l'agonie, on n'a pas assez de moyens, on n'y arrive plus, on souffre. Et ces mêmes soignants qui étaient dans la rue se sont tous serrés les coudes pour faire bloc et faire face. Il y a un enseignement humain sur la capacité collective de se transformer et de faire face à un événement brutal, parce que rien ne laissait présumer qu'on y parvienne. Et je pense que tout le monde s'est surpris dans cette capacité de cohésion, de solidarité, d'entraide.
Oui, j'écoute, ça sert à rien à l'appareil. J'aurai un scan après quand c'est bon pour toi.
Au plus fort de l'épidémie, il a fallu passer outre les règles. Pour cet infirmier qui souhaite rester anonyme, c'est le métier qui doit évoluer. Lui espère plus de liberté.
Ce métier ne peut qu'évoluer dans le sens où les infirmiers gagneraient en autonomie. Parce qu'en fait, il y a de moins en moins de médecins. Par exemple, aux urgences, On anticipe beaucoup de choses, c'est prescrit par la suite, mais normalement le médecin doit nous prescrire les soins avant qu'on les réalise. Là, avec le Covid, effectivement, il y a eu des choses qu'on a dû faire pour le patient, parce qu'il n'y avait pas de médecin disponible en fait sur le moment. Alors c'est des trucs tout bêtes, mais par exemple du paracétamol, on n'est pas censé en donner, on a été amené à le faire plusieurs fois, parce que par exemple quelqu'un qui a mal, ben, on ne va pas non plus le laisser avoir mal, ou quelqu'un qui a de la température, il va falloir la réduire, donc c'est pour ça que ce type de médicament, on a été amené à le mettre de notre propre initiative.
Est-il possible de mieux préparer les soignants à ce genre de crise ? La question revient souvent. À l'heure du premier bilan, Christine Vergne, directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers d'Agno, évoque des pistes pour demain.
Au-delà de l'Institut, les hôpitaux ont des plans blancs, mais je pense qu'il faut effectivement plus souvent faire des exercices et mettre les soignants en capacité de gérer ce type de situation. Au niveau de l'Institut de formation, il faut peut-être encore plus préparer les soignants à des problématiques psychologiques. Je pense que ce sont quand même des choses qu'il va falloir envisager si on pense que ce type de pandémie peut se reproduire.
Dans les hôpitaux, l'heure est à l'accalmie. Cette crise aura pleinement bouleversé le travail et l'esprit des soignants. Fatigués mais soudés, ils espèrent désormais que les promesses du gouvernement seront tenues. Pour cela, ils comptent sur le soutien de la population. Ce soutien, Philippe dans son camion Ben, Isabelle à sa caisse, Nabil, sac de livraison sur le dos, le réclament aussi. Des petites mains en quête de reconnaissance après avoir fait tourner le pays quand celui-ci était à l'arrêt.
Imaginez si nous, on se dit, bah, tiens, nous aussi, confinement, on a aussi peur, on ne sait pas, on reste à la maison, on ne ramasse pas tout ce qui est collectif et tout ce qui est déchets, on les laisse dans la rue.
Devant le virus, tout le monde mérite la prime, on est tous sur le terrain.
Est-ce que je vais tenir ? Je ne sais pas, parce que franchement, c'est lourd.